parole du jour avec le Père Willem.
S'engager avec d'autres ou bien passer du vivre ensemble au faire ensemble. Il y a quelques dizaines d'années, Gandhi disait ceci. L'une des lois de la nature est l'attraction universelle et c'est l'amour mutuel qui lui permet de vivre et de persister. Dire que l'engagement n'est plus de mode, c'est un lieu commun. Dans une société individualiste, une société de loisirs, pervertie par l'argent, le confort facile et la consommation addictive, nous avons oublié de soigner le collectif. Pourtant, selon la sociologue Cécile Bazin, aujourd'hui, 4 millions de Français de plus de 60 ans sont engagés bénévolement dans une ou plusieurs associations. Si l'on ajoute leur bénévolat dans les écoles, les mairies, les églises, les syndicats ou les partis politiques, ils sont 6 700 000, soit près de 1 Français sur 2 âgé de plus de 60 ans. Soucieuse de jouer un rôle citoyen, utile aux autres, ces personnes engagées produisent du lien social en même temps qu'elles donnent un sens à leur vie, trouvent un meilleur équilibre personnel et peut-être même, selon de récentes études, une meilleure santé. Il est vrai que les seniors constituent souvent les piliers d'associations. On peut avancer deux raisons probables à cet engagement des plus anciens. Contrastant avec la faiblesse numérique des jeunes aux mêmes endroits, les retraités ont davantage de temps libre et de disponibilité pour mettre leurs compétences au service des autres. Et comme le relève le sociologue, leur parcours bénévole a souvent commencé tôt dans leur jeunesse. Ils ont bénéficié de la culture solidaire d'avant les années 70, ce qui est un gage de poursuite et de réussite d'un parcours d'engagement jusqu'après la vie active. Néanmoins, même si c'est de manière ponctuelle, les jeunes sont tout à fait capables de se mobiliser collectivement et rapidement pour une cause qui leur tient à cœur. La défense de l'un des leurs, par exemple, ou la prise en compte de leur avenir. Comme il y a des jeunes attirés vers la coopération internationale, il en existe aujourd'hui qui se forment pour s'installer sur une ferme sans craindre les heures de labeur et les revenus précaires. Et cet engagement nécessite de la cohérence dans leur vie. On peut bien espérer, comme Cécile Bazin, directrice de l'association Recherche et Solidarité, que le bénévolat est une des réponses possibles à la crise que traverse notre pays, tant sur le plan économique et social que sur le plan politique, ne serait-ce que pour répondre à la crise des corps intermédiaires. En l'absence de perspectives et de changements venant du politique, la société civile se prend en main. De plus en plus d'initiatives personnelles débouchent sur les engagements collectifs. C'est de bon augure pour l'avenir. Comme on regrette la démission des citoyens par rapport au vivre ensemble, on déplore le manque d'éthique en politique. Que de promesses, de manœuvres, de mensonges, de faiblesses, de soumission aux pressions des décideurs financiers, ou encore que de nouvelles réformes pour détricoter à chaque alternative électorale ce qu'a établi le gouvernement précédent. Comment avance-t-on à la tête d'un pays ? Par quels intérêts les gouvernants sont-ils mus ? Ils ont, sans conteste, des missions très difficiles, mais l'on espère une ligne directrice pour le bien de tous, un équilibre entre le sentiment de démission généralisée et la réaction autoritaire d'un contrôle policier. Au niveau de la société civile et des simples citoyens que nous sommes, essayons déjà de définir un agir inspiré par une éthique de responsabilité. Alors que la morale d'ordre général définit le bien, le mal, les devoirs et les interdits, et que les préceptes et les dogmes religieux dictent aux fidèles la ligne de conduite, l'éthique a un esprit plus pratique, sans qu'il soit question non plus d'un code de déontologie, comme s'en donnent les organisations professionnelles. L'éthique s'est maintenant affranchie du poids religieux qui a pesé longtemps sur la morale. Dans ce contexte, parce qu'ils ne sont plus guidés par la religion ou les leçons de morale, les instituteurs d'antan, ni même souvent par leur entourage, nos concitoyens ont progressivement établi par eux-mêmes leur propre cadre de référence pour tracer leur chemin. Il est nécessaire et structurant, surtout pour les jeunes adultes, qui nous aident à dépasser l'impuissance et l'angoisse. L'éthique, en effet, concrétise et met en pratique les valeurs et les vertus auxquelles on accorde de l'importance, tant au niveau individuel que social. Alors, comment définir ces valeurs et ces vertus ? Un système de valeurs est une organisation durable de croyances concernant les modes souhaitables de conduite et les conceptions de l'existence. De fait, il peut varier selon les situations. Ceci dit, il nous semble que le respect se dégage comme la valeur prioritaire pour la vie sociale à l'heure actuelle. Respect de soi, respect de l'autre et des autres, c'est un premier pas qui n'encourage pas tant l'avènement vers autrui ou dans l'action, mais permet une attitude tolérante et pacifique qui n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Pour aller plus loin, il nous faut revenir au traditionnel socle des vertus cardinales. La prudence, la force ou le courage, la tempérance et la justice. À notre époque du « tout de suite » et du « je fais ce que je veux, quand je veux », il importe d'apprendre à différer les satisfactions, à contenir les expressions et retenir les passages à l'acte qui sont à redouter en période de tension ou de violence familiale ou sociale. Quant au courage face à l'adversité, il faudra aussi en déployer si des événements bouleversants survenaient. Parmi la jeunesse, celle qui est trop gâtée, qui n'a plus le sens de l'effort, sera bientôt convoquée par nécessité à faire preuve de courage. Et la justice. La seule des quatre vertus cardinales qui vaille absolument, selon le philosophe André Comte Sponville, le principe de base qui inspire la justice, c'est l'égalité des hommes entre eux, et c'est un principe confrontant lorsqu'on se trouve face à l'adversaire, l'étranger, le réfugié, le délinquant, le SDF. En tant qu'êtres humains, ils sont tous mes égaux, et ont les mêmes droits que moi. Combien de fois faut-il rappeler ce principe fondamental inscrit pourtant dans la Déclaration des droits de l'homme depuis 1948 ?